Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Luc Roy, 83 ans, est vu pour la dernière fois le 6 septembre dernier vers 16h30 alors qu'il s'achetait une canette de peinture dans un commerce de Sherbrooke. Après ça, il avait prévu se rendre chez son petit-fils Timothée pour souper, mais il ne s'est jamais rendu. Encore aujourd'hui, Luc Roy et sa voiture n'ont jamais été retrouvés. Restez là pour connaître la suite de l'histoire. Avant de commencer, je veux spécifier que l'histoire est extrêmement récente. En fait, c'est pour la moyenne de mes vidéos, là, ce que je fais normalement. Ça, c'est super récent. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Là, tu sais, ça va justement faire 8 mois que Luc Roy a disparu. Donc, c'est rare que je fais des vidéos aussi récentes parce qu'il y a beaucoup de développement quand ça vient juste d'arriver. 8 mois, quand la famille me contacte, comme là, ça va me faire plaisir à 100% d'en parler, parce que justement, là, le but est vraiment de récolter de l'information. Je pense que juste vous, en ce moment, qui écoutez cette vidéo-là, c'est faire œuvre utile, la partager les affiches de disparition que je vais mettre sur mes médias sociaux à la sortie de cette vidéo. Puis là, on essaie de récolter des informations, puis ça peut vraiment, vraiment être pratique, ce genre de vidéo. Donc, encore une fois, je me répète, vous allez voir, c'est vraiment la base, là, tu sais, ce que je vais vous dire en vidéo. Donc, pas beaucoup d'informations, c'est très minimal ce qu'on connaît, mais je vais essayer de vous faire quand même une ligne de temps pour qu'on sache ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Luc Roy disparaisse et où en est l'enquête aujourd'hui. Au cours de la vidéo, je vais l'appeler Luc et non Luc Roy à chaque fois que j'en parle. C'est bizarre de dire ça d'un homme de 83 ans disparu, l'appeler Luc comme si c'était mon vieil ami, mais je le fais avec tout respect, c'est vraiment juste pour la bonne compréhension de la vidéo. J'ai pu parler au fils de Luc, Marc-André. En fait, c'est lui qui m'a contacté pour une vidéo. Il est aussi associé, mais pas associé, il fait aussi affaire avec MDIQ pour justement chercher son père. J'ai fait un appel Zoom avec Marc-André. Il a pu répondre à toutes mes questions, puis je vais insérer quelques extraits de notre appel dans cette vidéo, comme je fais souvent, parce que des fois, c'est mieux quand des informations viennent de sa bouche à lui plutôt que de la mienne. Aussi, j'avais pas remarqué sur le coup, mais vous allez voir dans le Zoom, là, y a le micro de Marc-André griche un petit peu. J'avais pas comme remarqué pendant l'appel. C'est pas dérangeant, là, on entend très bien ce qu'il dit, mais vous allez juste entendre gricher. Je préfère vous le dire en avance. Je crois que ça va être la même vidéo que la vidéo que j'ai faite sur Annie Proulx. Donc, minimum d'informations, vidéo très courte, mais encore une fois, très importante. Donc, vous allez voir pour cette affaire, la disparition de Luc Roy a été médiatisée dès le départ. Ça a été très, très rapide, autant au niveau de l'enquête que des médias, ce qui est une bonne affaire. C'est même encourageant de voir ça, parce qu'encore une fois, on se rappelle, tu sais, des hommes qui disparaissent, des hommes plus... Bon, quand c'est des personnes âgées, j'ai l'impression qu'on prend ça plus au sérieux qu'un homme dans la cinquantaine, admettons. Mais oui, ça a été vraiment pris au sérieux, ce qui est bon. Mais tristement, malgré tout ça, Luc Roy est toujours porté disparu aujourd'hui et on n'a aucune idée d'où il pourrait être. Thank you. Vous écoutez le podcast Over and Out. Pour commencer, je vais vous parler de Luc Roy, 83 ans, qui est un homme originaire de Saint-Malo, en Estrie, l'Estrie qui est une région géographique du Québec, il me semble. Mais au moment des faits, il vivait à Sherbrooke depuis plus de 65 ans, donc il connaît très très bien la ville. Donc Sherbrooke, c'est pas une ville si grosse, ça, on pourrait pas comparer ça à Montréal par exemple, mais c'est une ville assez importante au Québec, il y a plus de 180 000 habitants, ce qui est pas énorme, mais quand même là, c'est une ville centrale, si on peut dire comme ça. Luc vient d'une très grosse famille, au moment des faits, il y a encore 3 sœurs et 2 frères de vivants. Plus jeune, le métier de Luc était professeur de mathématiques au secondaire, donc on peut clairement dire que c'est un homme brillant, qui est très cérébral. Il a commencé sa carrière à Richmond, où il a rencontré la mère de ses enfants, puis ensuite dans la ville de Windsor, aussi en Estrie, pour finalement terminer sa carrière au Goéland, à Sherbrooke. Ceci dit, il est retraité depuis l'âge de 55 ans, donc en 1995, et après il s'adonnait surtout à l'ébénisterie, jusqu'à temps qu'il vende sa maison en 2021, donc 3 ans, après la mort de sa femme qui est décédée en janvier 2021. Il a vendu sa maison en juin 2021 pour ensuite s'en aller dans un appartement, ce qui est beaucoup moins d'entretien pour un homme assez âgé, là, qui vit seul. Mais on peut voir, là, t'sais, il habitait encore en appartement, il conduisait, il habitait seul, fait que c'était un homme qui était très indépendant, il était en santé, relativement en santé, mais il faisait toutes ces petites choses, là, sans avoir besoin d'aide. Puis ça, je le spécifie, qu'il connaissait bien Sherbrooke, puis qu'il était indépendant, parce que ça va être important pour le reste de l'histoire. Luc et sa femme ont eu 3 enfants, donc Marc-André et Marie-Chantal, 2 jumeaux jumelles, et Martin, l'enfant plus vieux, qui est malheureusement décédé assez subitement le 31 décembre dernier. Et moi, j'ai lu ça, j'étais comme « Oh mon Dieu, quelle horreur! » Tu sais, ton père est porté disparu. T'as aucune idée d'où il pourrait être. Fait que ça, c'est un stress énorme. Puis en même temps, ton grand frère décède comme ça, d'une manière subite. Ah, c'est 2 gros drames dans une famille en peu de temps, ça a dû être extrêmement difficile. Luc a aussi 8 petits-enfants, puis comme j'ai dit plus tôt, il est indépendant, il conduisait beaucoup, il faisait des longues distances quand même, parce que son fils Marc-André habite à Saint-Hubert, qui est une autre ville à 1h30 de route environ de Sherbrooke, et ça arrivait souvent là, qu'il allait rendre visite à son fils, soit il faisait des allers-retours, ou il dormait là quelques jours, il revenait à Sherbrooke. Donc c'est une bonne route là, pour un homme, quand même de cet âge-là. Sinon, au niveau santé, il souffre de diabète, mais c'est contrôlé, donc il n'y a pas vraiment de danger. Il y a aussi des petits problèmes de cholestérol, de tension, mais c'est assez normal pour son âge. Il a dû combattre 2 cancers, donc un cancer de la prostate et un de la vessie. Au moment de sa disparition, il allait beaucoup mieux. Pourquoi je dis ça? Vous devez vous dire pourquoi nous parle de sa santé. En fait, c'est important parce que depuis ses cancers de la vessie et de la prostate, il avait souvent besoin d'aller à la toilette, probablement là, à peu près à chaque heure. Fait que c'est ça, il devait s'arrêter pour aller aux toilettes. Donc, il pouvait pas être longtemps parti de chez lui ou longtemps loin d'une salle de bain. Fait que c'est important quand même de spécifier ça. Ça va être important pour le reste de l'affaire. Donc maintenant, on va parler de la journée de sa disparition, de ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il a fait avant de disparaître? Il a disparu le 6 septembre dernier. Donc selon sa routine, chaque matin, Luc se réveillait vers 4h30-5h du matin, ce qui est très tôt. Fait qu'on peut s'imaginer que ce matin, il a fait comme à tous les jours, il s'est réveillé vers 4h30-5h. Ce qu'il faisait, il déjeunait, il prenait son petit déjeuner, il allait un peu sur l'ordinateur et ensuite il regardait un peu de télévision. Après ça, au courant de l'avant-midi, il est allé au cimetière de Bromptonville. Et en revenant, il est arrêté voir une connaissance, un ami, aux remorques Savage. Finalement, vers 10h30, il est allé voir un autre de ses amis à Sherbrooke. Encore une fois, on peut voir que cette journée-là, ça allait bien. Il était indépendant de ses déplacements. Il a fait des commissions, il a vu du monde, puis bon, c'est un homme, c'est ça, qui allait bien, qui prévoyait pas disparaître, finalement. Après ça, pour continuer ses courses, il est arrêté au Bureau en gros, qui est un magasin grande surface là, de papier, crayon, tous des trucs pour travailler dans un bureau. Et il s'est acheté un petit calendrier magnétique et il est rentré chez lui vers midi Ensuite, il a appelé son fils Marc-André, il lui a raconté sa matinée. Et Marc-André avait des résultats des prises de sang qu'il avait fait la veille, si je me trompe pas, c'était au sujet de sa prostate. Tout était beau pour les résultats, donc Luc était assez content de ça, c'était une bonne nouvelle. En après-midi, Luc avait l'habitude de faire une petite sieste, c'est probablement ce qu'il a fait cette journée-là. Ensuite, en après-midi, son plan était de faire une petite course, et vers 16h, et ensuite il allait souper chez son petit-fils Timothée. Et apparemment que Luc était super content et touché de cette invitation parce que c'était la première fois qu'il allait visiter l'appartement de son petit-fils. Puis c'est vrai que ça doit être très touchant pour un grand-papa de se faire inviter à souper. C'est d'être la priorité de son petit-fils, fait que j'ai trouvé ça beau. De ce qu'on sait, de ce qu'on croit connaître, à 16h, Luc a quitté son appartement et à 16h30, il est allé dans un commerce de la rue King à Sherbrooke pour se procurer une canette de peinture de voiture. Et ça a été confirmé, là. Après, la police est allée voir le commerçant qui a confirmé que Luc est allé lui rendre visite. Il était en santé, il était de bonne humeur. Il a payé avec de l'argent comptant. Après cette petite commission, il allait se rendre chez son petit-fils qui était à l'est de la ville. Et c'est pas mal là que ça se corse. À 17h, Luc est aperçu sur la mauvaise rue, soit la rue Virginie-Laflamme, et il semble chercher son chemin, là. Il est comme perdu. Donc on le voit circuler sur la rue en voiture tranquillement. T'sais, puis là, il fait demi-tour, il reprend le même chemin. Il le fait à plusieurs reprises, donc quelqu'un qui est perdu sur une route. Ça, on le sait parce qu'il y a des passants qui l'ont vu, donc des témoins, ce qui est une bonne nouvelle encore une fois, parce que c'est rare qu'il y ait des témoins dans des disparitions. Il y en a, mais tu sais, pas toujours. Et il y avait des caméras de surveillance, donc souvent dans les maisons des gens ou même des commerces, donc on sait ça grâce aux caméras de surveillance. Il y a même des gens qui se sont arrêtés puis lui ont demandé si tout allait bien, tu sais, s'il était correct. Et Luc a répondu qu'il cherchait la maison de Timothée. Et la personne qui lui a parlé savait pas trop quoi faire de cette information, il connaissait pas Timothée, mais il lui a donc demandé sur quelle rue vivait Timothée. Luc a répondu que son petit-fils vivait sur la rue des Coquelicots. La personne lui a dit « Ah, t'es sur la mauvaise rue, si tu veux, je peux t'aider à retrouver ton chemin, je peux te donner la direction pour t'y rendre. » Luc a répondu que non, puis il est parti.
Mais un petit peu plus sur la même rue, parce que la rue est quand même un genre de cercle. Il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait arrêté aussi, puis il aurait donné des indications comment faire pour se rendre sur la rue des Coquelicots à partir d'où il était. C'est pas mal les dernières choses véridiques là, qu'on sait. Cette rue-là, la rue des Coquelicots, quand elle continue, elle tourne, puis elle change de nom de rue. Puis au changement de nom de rue, ben le frère à mon père et il était conjoint avec la sœur à ma mère, il habitait sur cette rue-là. Fait qu'il a déjà été.
OK.
Fait que c'était un coin qui était pas inconnu, même si ça faisait peut-être quelques années qu'il avait pas été, mais tu sais, mon père habitait Sherbrooke pendant 60 ans, tu sais. Fait que c'était sa ville, tu sais.
Ça m'a surpris quand même de lire ça. Pourquoi il n'aurait pas demandé l'aide à cette personne-là? Je ne sais pas si c'est par orgueil, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont mal compris. Peu importe, c'est ça qui est arrivé. Après ça, Luc ne s'est jamais rendu chez son petit-fils et il n'a plus donné de nouvelles. Et ni lui, ni sa voiture n'ont été revus par la suite. Il n'y a aussi aucune transaction bancaire qui a été faite depuis la veille. Donc le 5 septembre, c'est la dernière fois qui s'est servi de ses cartes. Je me suis aussi demandé si son téléphone avait été géolocalisé. Malheureusement, son téléphone avait été laissé sur le comptoir de son appartement. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir il était où. Ensuite, ils ont aussi vérifié pour sa voiture, qui était une RAV4 grise 2021. Il n'y a comme aucun système de GPS, ou même Sirius, là, ça ne fonctionnait pas sur sa voiture. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir où est sa voiture, par où il a passé, où il est en ce moment. Suite à la disparition de Luc, qui a quand même été médiatisée, la police et la famille ont quand même reçu des informations, assez d'informations, de gens qui croient l'avoir vu. Ça arrive tellement souvent, malheureusement, dans des histoires de disparition. C'est positif, tu sais, les gens, on peut croire qu'ils veulent aider. Mais les, tu sais, Luc, c'est un homme qui avait probablement un visage assez commun. Fait que c'est possible là, de le voir. Tu sais, je pense que Marc-André a reçu une information que en décembre, Luc avait été vu dans une autre ville, mais tu sais, c'est très peu probable que ça soit ça.
Puis son Timothée, lui, devait s'inquiéter là, pendant 6 heures sans nouvelles de son grand-père.
Ben, mon père, il avait dit qu'il serait là entre 6 et 7.
Okay.
Puis, tu vois, moi, je soupais avec ma blonde à Saint-Hubert, puis on mangeait, puis je pense qu'il était 6 heures et quart, puis j'ai dit, bon, j'ai dit...
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Timothée et mon père, ils doivent être en train de souper. J'espère qu'ils passent du bon temps ensemble. Mon père était super content d'y aller. Là, c'est la première fois qu'il se faisait inviter. Puis là, ben, à 8 heures à peu près, je reçois un messenger de mon neveu qui me dit « As-tu le cellulaire, le numéro de cellulaire à grand-papa? » Je dis, ben oui. Mon père venait de changer de cellulaire le 28. Là. Fait que je dis, il n'a pas donné son numéro à tout le monde. Fait que j'y envoie, tu sais, par Messenger. Puis je dis, pis, comment s'est passé le souper? Ben, il dit, c'est ça, on l'attend encore. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire des appels dans les hôpitaux, appeler la police s'il n'y avait pas eu un accident impliquant le croix. Puis, il n'y avait rien. Puis après ça, ben, on a pensé, ma blonde m'a fait penser qu'il y a une cousine à ma mère qui habitait dans le même bloc que lui.
Ah, OK.
Fait que je l'ai contacté par Messenger. J'ai demandé d'aller vérifier son auto dans le garage, d'aller cogner à son appartement. Elle l'a fait. Pas d'auto. Pas de réponse. Fait que j'ai embarqué dans mon char, puis je suis descendu à Sherbrooke. Puis j'avais la clé pour rentrer dans le bloc et la clé de son condo. Fait que...
Vers 21h45, Marc-André, le fils de Luc, est arrivé à Sherbrooke pour voir qu'est-ce qui se passait avec son père. Il avait déjà eu l'information que son père était perdu, était disparu. Il a rappelé la police pour finalement signaler officiellement la disparition de son père. Il avait déjà appelé la police avant de partir de Saint-Hubert pour aller à Sherbrooke. Mais là, il a rappelé la police en disant « Écoute, il a toujours pas été retrouvé, là. On va signaler sa disparition. » Comme vous voyez, la famille de Luc a vraiment agi rapidement, ce qui est parfait. Je pense pas qu'il aurait pu agir plus rapidement que ça. Là. Ils ont vraiment fait là, tout de suite, ils ont signalé sa disparition. Et même la police de Sherbrooke a vraiment réagi rapidement. La soirée même, il y a deux policiers qui se sont déplacés pour prendre une déposition et pour faire un avis de recherche officiel.
Octogénaire se rendait chez son petit-fils dans le secteur Fleurimont et ce sont des piétons qui l'auraient vu pour la toute dernière fois au volant de son Toyota RAV4 de couleur grise.
Dès 6 heures le lendemain matin, la disparition de Luc était déjà aux nouvelles, déjà dans les médias, ce qui est waouh, c'est parfait, c'est rare qu'on voit ça. Pas rare, mais c'est pas... ça arrive pas toujours, disons. Mais il y a quand même eu un petit bémol parce que Marc-André n'avait même pas eu le temps d'aviser le reste de la famille, donc les frères et sœurs de Luc, les proches, les amis, personne n'avait été avisé que Luc était porté disparu, puis ils l'ont comme appris en regardant la télévision. En même temps, je crois que c'est vraiment mieux comme ça, là, de pas attendre, parce que c'est ça, il a disparu quand même tard, ils ont signalé sa disparition assez tard avec la police et tout. Je comprends qu'il n'ait pas appelé la famille sur le coup, mais c'est ça, tu sais, ça a été sûrement très, très difficile de l'apprendre à la télévision. Mais je pense qu'à ce stade-ci, les enfants de Luc... ses petits-enfants, sa famille proche, pensait qu'il allait être retrouvé bien vite. T'sais. Peut-être qu'il se disait « Ah, oh, il est juste perdu, il est peut-être dans un hôpital. » Bon, il avait déjà appelé les hôpitaux du coin, mais je pense vraiment qu'il pensait qu'il allait le retrouver le lendemain. Là. Ça n'a pas été long que le service de police de la ville de Sherbrooke a érigé des postes de commandement dans la ville, soit à l'automne et au mois de décembre. Mais à ce qu'on sache, ça menait à rien de concret. Donc, le dossier en ce moment, il est encore bien ouvert et actif. Je me demandais s'il y avait eu une alerte Silver qui avait été lancée par rapport à la disparition de Luc. Pour ceux qui connaissent pas ça, l'alerte Silver, c'est un peu comme l'alerte Amber. Ça se ressemble même, le mot, là. Mais c'est pas pour des enfants, c'est pour des personnes âgées. En fait, c'est pour des personnes plus vulnérables. Donc, des personnes en situation d'handicap physique ou mental, des personnes âgées qui vont souffrir d'Alzheimer ou de démence, ou même des personnes pas âgées qui souffrent d'Alzheimer aussi. Fait que c'est pour des personnes vulnérables qui ne sont pas des enfants. C'est vraiment un excellent concept, là, qui, je crois, va permettre d'aider à retrouver plusieurs personnes qui disparaissent au Québec là, dans les heures ou les jours à venir. Malheureusement, c'est pas encore actif, là, et instauré à 100% au Québec, donc se lit seulement dans quelques régions. Je me rappelle, il y a pas longtemps, on avait justement reçu une alerte Silver sur notre téléphone et la dame avait été retrouvée pas longtemps après. Mais au moment de la disparition de Luc Roy, l'alerte Silver n'était pas mise en place dans la région de l'Estrie, mais elle est à quelques autres endroits au Québec. Là, c'est comme un test, j'imagine. Fait que c'est pas mal tout ce qu'on sait au niveau de l'enquête. Depuis le début, les proches de Luc Roy essaient de faire avancer cette enquête justement de leur côté du mieux qu'ils peuvent. Par exemple, ils ont vraiment distribué des affiches partout dans la ville.
Distribué des affiches, mettons, dans la ville, dans les restaurants.
On a fait, je pense, le 6 ou le 8, qu'on a mis des affiches un peu partout dans la ville. Il y a des endroits qui ne voulaient rien savoir, mais...
Ah ouais, ah oh, mon Dieu.
Ben oui. Mettez rien, blablabla, bla, bla. Mais on a mis sur des poteaux de téléphone, des boîtes à lettres. On en a mis amplement dans plusieurs coins de la ville de Sherbrooke, là, autant des amis que des membres de la famille qu'on leur a donné des affiches, justement, là, puis ils ont été vraiment là, installés un peu partout, là.
Tu sais, c'est sûr, pour cette affaire, il n'y a pas mille hypothèses comme dans d'autres histoires de disparition. Fait que, tu sais, il y a des hypothèses qu'on peut tout de suite éliminer. Par exemple, Luc n'a pas décidé de refaire sa vie ailleurs, on s'entend. Il y avait quand même de l'argent sur lui au moment des faits, là, tu sais, pas mal d'argent. Mais on s'entend qu'il n'aurait pas pu aller super loin avec ça. S'il avait utilisé ses cartes, on l'aurait su anyway. Ensuite, le suicide n'est pas vraiment une option non plus. Vraiment pas. Même là, Marc-André le dit, il dit « Non, mon père, il était pas malheureux. » ça veut rien dire, je sais. Mais il y avait des plans pour la soirée, il y avait des plans long terme. Je veux dire, bon, je crois qu'à ce stade-ci, il y a pas mal deux options qui nous restent. Donc, la perte de mémoire / accident ou la piste criminelle. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire de Linda Vinette qui a disparu il n'y a pas longtemps. C'était au mois de février. Je me rappelle, son affiche avait pas mal été partagée, là, je parle au Québec. Il y avait même un membre de sa famille qui m'avait écrit. Puis c'était pas mal les mêmes questionnements qu'on avait. T'sais, elle pourrait pas être partie juste comme ça. Elle était pas suicidaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tristement, Linda a été retrouvée. En fait, elle avait eu un malaise dans sa voiture, donc elle s'était stationnée dans un parking public, puis on l'a retrouvé quelques jours plus tard. Fait que j'ai tout de suite pensé, est-ce que c'est ça qui est arrivé? C'est pas impossible. C'est sûr que c'est pas impossible, mais on se dit, tu sais, après 8 mois, il aurait été retrouvé. Surtout que la distance entre chez lui et l'appartement de son petit-fils n'est pas si grosse. T'sais, oui, Sherbrooke, c'était une grosse ville, entre guillemets, mais pas tant que ça. C'est possible qu'il ait pris un détour, qu'il se soit perdu, qu'il se soit ramassé comme en forêt. Il y a quand même des forêts autour de Sherbrooke. C'est pas impossible, mais c'est vraiment peu probable. Je pense pas que ce soit ça qui soit arrivé non plus. Je me suis demandé peut-être qu'il s'est arrêté aux toilettes, puis s'est passé quelque chose. T'sais, il s'arrête aux toilettes, toilettes publiques, il glisse, il tombe, il se pète la tête. Puis après, il y a un genre de traumatisme crânien ou quelque chose qui se passe. il y a un malaise dans sa voiture, puis bon. J'ai demandé à son fils s'il avait des pertes de mémoire, là. T'sais, on s'entend à 83 ans, c'est assez normal que t'en aies un petit peu. Il y en avait, oui, mais c'était pas dramatique, encore une fois. Écoutez son fils, là, il va vous le dire justement, voici l'extrait.
Écoute, nous, on avait détecté probablement des petits trous de mémoire, puis on lui avait... en fait, moi, j'avais été chez lui, je pense que c'est le 28 août, quelque chose comme ça, puis j'y avais montré des courriels qu'il m'avait envoyés, la même information en dedans de 2 heures sur 2 courriels différents. Il m'avait appelé plusieurs fois, fait que j'avais dit, je pense que ça serait peut-être une bonne idée qu'on prenne un rendez-vous pour un petit examen de mémoire, là, tu sais. Okay. Fait que j'avais amené ça de la bonne façon, je pense, puis il était d'accord. Puis ma sœur était à Sherbrooke avec lui le 5 septembre. Il y avait une prise de sang à les faire, puis elle a fait tous les trucs avec lui la journée. Puis en après-midi, elle a dit à mon père, elle a dit, bon, elle a dit, maintenant, sors-moi le numéro, on va appeler pour te prendre un rendez-vous pour l'examen de mémoire ou... Puis là, ben, il a boqué. Il a dit non.
Ouais,
okay. Il était pas prêt à ça. Il savait qu'il y avait des petits trous de mémoire, mais il était prêt à faire autre chose, mais pas ça tout de suite. Il s'était entendu avec ma sœur d'aller chercher un gros calendrier aimanté à mettre sur le frigidaire, puis mettre ses notes, ses rendez-vous, ses trucs comme ça. Et quand je suis arrivé chez eux le 6 septembre au soir... Il avait son calendrier acheté qui était sur son frigidaire. Tu sais. Fait qu'il était conscient de peut-être des petites pertes de mémoire, mais il était aussi très au fait qu'il fallait qu'il trouve une façon de s'améliorer, puis il l'a mis en application. Tu sais. Fait qu'il était loin d'être dément, loin d'être perdu, là, tu sais, là.
Mais l'affaire ici, c'est que c'est difficile de chercher, tu sais, il n'a pas été vu à un endroit spécifique où tu peux faire des battues puis des recherches, là. Tu peux pas fouiller, faire des battues dans toute la ville de Sherbrooke puis toutes les forêts autour puis les régions puis les villes autour. C'est impossible. Fait que c'est ça qui est difficile en ce moment parce que on n'a aucun indice, on ne sait pas où chercher. C'est comme carrément chercher une aiguille dans une botte de foin, là, on ne sait pas par où commencer. C'est sûr qu'on peut pas éliminer la piste criminelle, soit le meurtre. C'est possible que sa famille penche vers ça en ce moment. Est-ce que quelqu'un a essayé de lui voler son portefeuille, sa voiture, puis l'aurait éliminé par la suite? Tu sais, Sherbrooke, en fait, le Québec, c'est pas une ville dangereuse, mais ça reste qu'il y a des fous partout. Moi, j'ai pensé peut-être qu'il s'est fait frapper, il y a eu un accident qui s'est passé, puis la personne, au lieu d'appeler la police, elle s'est dit « bon, je vais cacher le corps » ou « encore là, est-ce que c'est commun? Je sais pas. » Mais rien n'est impossible. C'est vraiment triste de penser comme ça, puis j'aime pas ça dire ça, tu sais, la famille doit se poser des questions, puis tu sais, je veux pas y aller cru de même avec mes hypothèses, mais je pense qu'à ce stade-ci, justement, après 8 mois, il faut considérer toutes les options ou les scénarios possibles. Puis pourquoi c'est important de continuer à en parler? Parce que les gens sont pas conscients qu'il a pas été retrouvé. T'sais. Ils ont vu son avis de disparition il y a 8 mois. Fait que les télés l'ont cherché, mais il y a pas toujours des updates, puis les gens le voient pas toujours, les updates, quand la personne est retrouvée en vie ou pas. Après 6 mois, Marc-André, il a donné beaucoup d'entrevues et tout pour comme dire « Hey, genre, Luc Roy est toujours porté disparu, continuez de chercher, continuez de garder l'œil ouvert. » Mais c'est vrai là, qu'en ce moment, il y a probablement plein de personnes qui savent pas qu'il est encore cherché puis qu'il a pas été retrouvé. Donc en ce moment, ben, le printemps est arrivé, tu sais, les gens vont commencer à sortir les cabanes à sucre, à marcher plus, à aller faire des randonnées en forêt, là, aller pêcher, aller faire de la chasse. Donc je crois que ça, c'est quand même encourageant pour la famille parce qu'on espère retrouver un indice. Donc n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, c'est votre part d'écouter du true crime. Puis même, je pense, là, si vous êtes en France, tu sais, puis ou en Europe, ou peu importe, partagez l'affiche parce que, bon, il est pas en France en ce moment, on sait, mais ça aide l'algorithme. Donc plus tu partages une affiche, plus que, mettons, il y a 3000 partages, c'est encourageant, le monde, ils vont continuer, ils vont adhérer au mouvement. Luc, c'est un homme qui était vraiment apprécié de ses proches, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses frères et sœurs, de ses amis. C'est un homme qui mérite d'être retrouvé en vie ou non, mais au moins qu'on sache ce qui est arrivé pour la famille. Pensez à votre père qui a disparu ou genre votre grand-papa, tu sais. Caroline, tu veux savoir ce qui est arrivé. Puis mettez-vous à la place de ses enfants, ses petits-enfants. C'est pas juste une histoire comme ça qu'on raconte, là. Il y a vraiment des gens qui sont touchés par ça en ce moment. Puis c'est un hostie de drame dans leur vie, là. Donc, au moment de sa disparition, Luc Roy portait un manteau bleu et une casquette blanche. Il a les cheveux gris et les yeux pairs. Il pèse environ 180 livres et mesure 5 pieds 7. Au moment des faits, il conduisait une RAV4 2021 grise. Si vous avez quelconque information, je vais mettre les numéros de téléphone, liens, personnes à contacter dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Même des fois, un petit indice, tu te dis « j'ai eu une RAV4 de stationner pas loin de chez nous depuis vraiment longtemps. » RAV4 grise. Genre, c'est vraiment weird. Appelez. T'sais, ça peut vraiment aider. Puis au pire, on va éliminer cette option-là. Puis vous allez avoir la conscience tranquille, d'avoir essayé d'aider. Fait que voilà, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Over and out.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.